Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Cours d'honneur saison 2 épisode 9, c'est le dernier de la saison. L'émission de la bande Radio Sorbonne diffusée sur Radio Campus. Bienvenue, on t'accueille dans notre amphi. Ici, pas de TD, rien que DDM. Oui, et n'hésite pas à nous contacter sur les RS. RSU est là pour toi qui galère à trouver ta salle, toi qui galère à trouver des potes, toi qui galère à trouver un bar, toi qui galère à trouver une meuf. On connaît tous les meilleurs plans de la rive gauche, les histoires qui se racontent au Crous, les meilleures façons de gruger le métro et toutes les terrasses ensoleillées pour te prélasser cet été dans la capitale. Ensemble, pendant une heure, la radio étudiante de la plus vieille fac de France sur la première radio étudiante de la capitale. Et pendant une heure, on te promet de la culture.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
Et il y aura aussi des rumeurs dans cette émission.
Madame, je ne sais comment, mais il faut que je vous le dise. Je vous aime.
Et même du love pour les plus chanceux.
8 femmes sur 10 pensent que le premier baiser va leur révéler tout ce qu'elles doivent savoir sur l'avenir de leur relation. Et fais-moi confiance, cette scène, 100 fois, elle l'a imaginée.
Et du style avant tout dans cette émission.
Cessez vos efforts pathétiques pour essayer de me draguer. La seule idée que vous pourriez avoir une seule chance, c'est déjà une insulte vis-à-vis de moi.
Voilà nos promesses, avec une équipe bien déterre pour vous servir. Allez, on fait le tour du plateau. Bonsoir Tibor.
Bonsoir, je vais vous parler de nous, de Radio Sorbonne Université.
Excellent, à côté de toi, Juliette est avec nous. Salut Juliette.
Salut, aujourd'hui je vais vous parler du film Mario Bros et ça va être sympa.
Sympa, avec toi également Rosalia. Salut Rosalia.
Salut Thomas, aujourd'hui je vais faire l'édito.
Excellent, Abel est avec nous, fidèle au poste. Bonsoir Abel.
Salut Thomas, ce soir je vous parle du reportage qu'on a réalisé à l'occupation du campus de Clignancourt.
Et on a hâte d'entendre ça et puis pour clôturer le tour de table, Pauline, bonsoir Pauline.
Salut Thomas, aujourd'hui je vous présente la revue de presse féministe.
Et puis je vous propose aussi d'écouter la carte postale de Célia et les deux interviews de Marine et Larissa. Tu es ici chez toi, prends place, le décollage est imminent. Du haut de l'amphi au fond des chambres de bonne, bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, je suis vraiment fâchée.
Carte blanche.
Et c'est Rosalia qui s'y colle aujourd'hui.
Nous sommes à quelques semaines du début des partiels pour les étudiants de Sorbonne Université et je suis sûre que vous sentez déjà la pression monter. Cette période de révision peut être très éprouvante physiquement et mentalement. Vous le savez, vous le sentez dans tout votre corps qui commence à fatiguer. Mais rassurez-vous, j'ai le conseil qui va vous permettre de surmonter cette période haut la main. Faites des pauses. Non, cela ne vous fera pas perdre de temps et oui, cela vous permettra d'être plus productif. Que vous fassiez partie des travailleurs acharnés ou des adeptes de la procrastination, ces pauses vous seront toujours bénéfiques. C'est comme pour une randonnée, il faut du temps avant d'arriver au sommet de la montagne. Alors voilà mon top 3 des meilleures raisons pour faire des pauses durant vos révisions. Raison numéro 1, améliorer sa productivité. On n'y pense pas forcément consciemment, mais laisser le cerveau rêvasser quelques minutes, par exemple en écoutant une musique ou en observant le vol des pigeons par la fenêtre, eh bien ça fait du bien. Car une fois la rêverie terminée, ce sera plus facile de se reconcentrer sur son travail. Raison numéro 2, diminuer sa fatigue. Le saviez-vous, la sieste express, c'est-à-dire la sieste de moins de 20 minutes, permet de réduire la sensation de fatigue et d'améliorer la mémoire. Après un dodo affalé sur la table d'une BU ou allongé dans votre lit douillet, votre cerveau sera prêt à repartir à l'assaut d'une nouvelle montagne de fiches. Raison numéro 3, réduire son stress. Si vous en avez la place entre votre bureau et votre évier, déployez un tapis de yoga. Faites quelques étirements ou quelques abdos après des heures d'efforts intellectuels assis à une table sans bouger. Cela vous permettra de diminuer le stress. pour ceux qui ne veulent pas faire de yoga en BU au risque de passer pour une andouille, un petit footing dans les couloirs fera aussi l'affaire. Enfin, faire des pauses, c'est avant tout prendre soin de soi. Car rien ne sert de s'épuiser à la tâche, il faut s'arrêter à point pour repartir de plus belle.
Faire ton footing dans les couloirs de l'abysse. Merci Rosalia pour ces 10 conseils. Stressez pas, ça va bien se passer. Vous le savez, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
L'horizon qui attend nos étudiants après cette période de partiel, c'est l'été. L'été, l'occasion de se faire un petit peu de sous-sous, de la grosse moula pour certains peut-être. Et puis, ben, on le sait, les jobs d'été, parfois, c'est de très bons souvenirs. Un peu moins d'autres fois, les meilleurs et les pires souvenirs des jobs d'été, on a posé la question aux étudiants de la Sorbonne.
Le pire, c'est quand j'étais surveillante de salle de musée. C'était vraiment très ennuyant et c'était à Beaubourg, c'était public touriste classique, voilà, c'était des journées entières assis sur une chaise, donc c'était un peu long.
Alors mon meilleur souvenir de job d'été, c'était on devait faire des rénovations à la cathédrale de Chartres et on a dû monter sur les toits pour aller checker, voir si toutes les corniches étaient en place. Il faisait un temps magnifique et c'était un panorama qui était quand même pas mal. Et mon pire souvenir de job d'été, même ville d'ailleurs, Chartres, je devais être gardien de nuit. Et une équipe d'une dizaine d'Allemands complètement bourrés sont arrivés à 2h du matin. Et il y en avait deux qui se battaient en allemand, donc j'ai pas bien compris pourquoi. Heureusement, je suis plutôt physique, donc j'ai réussi à les séparer, mais je me suis senti très très seul à essayer de leur expliquer qu'il fallait pas faire ça en anglais alors qu'ils étaient allemands et étaient bourrés.
J'ai joué aux échecs avec Kasparov. C'était très sympa. Je travaillais à un festival de nouvelles technologies. Il était ambassadeur d'une marque et je suis allé le voir, je lui ai serré la main et je lui ai demandé s'il y avait moyen de faire une partie. Il a dit oui. Et donc on a joué aux échecs ensemble.
Et alors?
Eh ben c'était... j'ai gagné. Non. Il était interne. Il venait de jouer contre 7 personnes en même temps avant.
Et alors, autour de la table, meilleur, pire souvenir de job d'été ou même ce qui vous attend, Abel, cet été?
Été, je ne travaillais pas. Et de job d'été, mon pire souvenir, c'est que j'ai fait livreur Just Eat.
Ah, ça, on a connu alors.
C'est très dur.
Livraison de repas, mais
c'est très dur.
Scoot ou vélo?
Vélo, à Paris.
C'est bien, un vrai. Autour de la table, des bons souvenirs de job d'été, de... Non?
J'avais fait aussi surveillant de musée, et en fait, c'était pas fou, mais il y avait d'autres jeunes, donc ça allait. Mais sinon, en soi, ouais, c'est vraiment pas fou. Enfin, on s'ennuie rapidement.
Ah ouais. Rosalia?
Ouais, non, moi j'ai fait l'épuration des tournesols, levé genre 5h du mat. C'était...
Alors attends, raconte-nous, c'est quoi le procédé de l'épuration des tournesols?
Alors,
on dirait un truc radical.
On se lève super tôt, on va dans les champs, et là on doit couper les tournesols qui sont pas conformes aux normes de l'agriculteur, et faire ça entre 7h du 6-7h du mat et 14h, un truc comme ça. Donc c'est se faire érafler les jambes, marcher pendant des kilomètres et juste couper des tournesols.
Ouais, c'est physique, effectivement. Ouais. Moi, je me rappelle d'un job d'été physique à McDo. J'ai vendu des Big Mac pendant un été. Il y avait tous mes potes qui passaient me voir et je leur filais des McFlurry gratos. Mais mon meilleur souvenir, c'était aussi physique. C'est quand j'étais balayeur de rue dans mon petit village du Vaucluse. Et pour le coup, c'était plus physique. On se levait aussi aux aurores à 3h du mat. Mais on se sentait plus utile qu'en vendant des burgers à des adolescents, en balayant les rues, en les arrosant avec le jet d'eau le matin, alors qu'on était en plein été, qu'il faisait très chaud. Les gens avaient l'air reconnaissants. On me filait même des petites pièces pour que j'aille arroser les plantes des riverains. Donc bon souvenir, notre souvenir autour de la table. Bon, eh ben, en tout cas, c'est une bonne occasion de rencontrer des gens, effectivement, comme disait Pauline. Les jobs d'été, c'est propice aux rencontres. Vous êtes toujours dans Cours d'honneur sur Radio Campus Paris. Acide Arabe, le groupe français qui agite depuis 2012 la scène électronique française alternative, est de retour. Avec 3, son nouvel album particulièrement attendu, c'est sorti en février. janvier dernier. Et on s'écoute un extrait, ça s'appelle Don Don. Yarabbu ne dertmiş derman bulunmaz. Yardan gayrı kimse çare olamaz. Benim garip gönlüm aşktan usanmaz. Varır yâre hiç geri dönmez. Campus Paris, Don Don d'Acid Arabe, groupe français présent depuis 2012 sur la scène électronique française. On parle de la vie étudiante de la Sorbonne et de l'actualité de ses membres et c'est Marine qui reçoit notre première invitée.
Oui, oui, la citation, voulez-vous ?
Il faut trouver la voie.
Ce soir, nous recevons Bernard Vouilloux, professeur de littérature française du XXe siècle à Sorbonne Université. Rappelons que vos recherches portent principalement sur les rapports entre le verbal et le visuel. Vous interrogez par exemple la relation entre la littérature et la peinture, ou encore la poétique et l'esthétique. On peut retrouver tous vos travaux dans les dizaines d'ouvrages que vous avez publiés à ce sujet. Ouvrages dans lesquels vous tentez de mettre au jour sans relâche cette dialectique entre le verbal et le visuel. Bernard Vouilloux, bonsoir.
Bonsoir.
Si l'on s'en tient à vos recherches, vous travaillez finalement davantage sur les relations que les objets eux-mêmes. Ma première question est la suivante. On a habituellement tendance à étudier le texte et l'image en catégorisant et en procédant par équivalence et différence. A l'inverse, vous cherchez davantage à relier et à mettre en relation. quelles sont les difficultés spécifiques et principales que vous rencontrez par rapport à la méthodologie plus traditionnelle ? Si vous aviez des exemples concrets.
Bien sûr. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre question parce qu'elle va d'emblée au cœur des choses, ce qui montre que vous avez perçu dans quelle direction effectivement je travaille. Je ne travaille pas plus particulièrement sur une période, plus particulièrement sur un type d'objet, de texte, classé par genre par exemple, ou par auteur, mais bien sur des questions transversales. Il se trouve que j'ai surtout travaillé sur des textes du 19e et du 20e, voire du 21e siècle, mais aussi du 18e siècle. Mais à un moment, je me suis interrogé sur ce qu'il en était de ce que l'on appelle dans la rhétorique antique l'aspectus sine voce, c'est chez Quintilien, le spectacle, ce que l'on voit et qui n'a pas de voix, si vous voulez. C'est un domaine qui relève de l'action oratoire. Bon. Donc je prends finalement mes objets de recherche où je trouve que c'est pertinent. Alors effectivement, ça donne lieu à des recherches transversales, dont on peut ne pas percevoir tout de suite l'unité. L'unité, elle est d'ordre problématique. Elle est donnée par la nécessité de travailler sur l'articulation entre le verbal et le visuel. Ce sont des termes que j'ai avancés pour rendre compte de la chose et de leur instanciation, si vous voulez, ou exemplification dans des pratiques auxquelles on a donné le nom de littérature et d'art. Voilà.
D'accord. Et justement, à ce propos, si on suit votre approche qui cherche à dégager toutes les interactions et rapports possibles entre images et textes, on en vient à conclure qu'un art va nécessairement, en quelque sorte, réfléchir et infléchir tous les autres. Qu'y a-t-il alors encore d'irréductible entre le textuel et le visuel ?
Oui, alors ça, effectivement, c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup, et d'ailleurs qui n'est pas neuve. Elle se trouve chez les théoriciens allemands de l'Athénaum, les frères Schlegel, en l'occurrence, Friedrich et August Wilhelm. Au fond, un art, quel qu'il soit, quand il va jusqu'au bout de lui-même, est en capacité de traiter de l'ensemble du sensible et de l'intelligible. Si vous voulez, il y a une spécificité de chaque médium. On n'attend pas de son grille-pain qu'il vous chante l'air des bijoux de la Castafiore, par exemple, d'accord ? Hein ? Il y a une sorte de vocation liée à chaque médium. On n'attend pas d'un texte qu'il dégage un parfum, etc. Mais chaque art, par les moyens qui lui sont propres, est apte à rendre compte de l'ensemble du sensible et de l'intelligible. Et c'est, comment dire, je ne crois pas à une complémentarité des arts, comme si ce serait pensé selon le modèle de la connexion plurimédiale, si vous voulez, aujourd'hui, un sujet hyperconnecté qui lit un texte en même temps qu'il entend de la musique et qu'il regarde un tableau. Non, ça, c'est un modèle qui ne m'intéresse pas, c'est un modèle purement technologique, mais je crois véritablement qu'un musicien, lorsqu'il va au bout de sa démarche, peut faire voir quelque chose, finalement, de la même manière qu'un écrivain, lorsqu'il va au bout de sa démarche, peut vous faire sentir une odeur ou une saveur.
Très bien. Par ailleurs, je me demandais, vous avez publié il y a quelques années le tournant artiste de la littérature française. Vous expliquez que jusqu'à la fin du XIXe siècle, la critique est uniquement l'affaire du professionnel de l'art en question, et qu'il faudra attendre la fin du XIXe pour voir émerger une sorte de critique autonome qui vient arracher, pour le dire simplement, le leadership du discours, par exemple sur la pâture au peintre, qui était jusqu'alors le seul habilité à tenir un discours légitime sur la question. Aujourd'hui, on observe une diversification des discours sur l'art, et il semble que le critique moderne Et désormais, n'importe quel citoyen qui juge et critique l'art en place publique, via par exemple les réseaux sociaux notamment. Comment percevez-vous cette démocratisation de la critique de l'art ?
Bon, alors, en fait, ça s'est joué très tôt. Il y a un historien de l'art américain, Thomas Crowe, qui a parfaitement analysé la chose, comment la foule est devenue un public. Ça s'est passé au XVIIIe siècle. À un moment où, justement, les peintres académiciens de l'Académie royale de peinture et de sculpture prétendaient avoir un monopole sur le discours légitime concernant la peinture et la sculpture. Or, à partir des années 1730, à peu près, il y a des hommes de lettres, on dirait aujourd'hui des journalistes, qui, dans des gazettes, ça vise de rendre compte des tableaux exposés dans le cadre du salon. Le salon est une institution, si vous voulez, qui dépend de l'Académie royale de peinture et de sculpture, où exposent les peintres académiciens. Les peintres académiciens ne supportent pas ça. Il n'y a que les gens du métier qui ont le droit de parler de leurs œuvres. Bon. Le coup d'envoi était donné. Ça va être les réflexions sur l'état présent des arts de Lafont de Saint-Yenne, publié en 1747, grottolé de la part des académiciens qui sont vent debout contre cet amateur qui prétend rendre des jugements sur leurs œuvres alors qu'il avoue lui-même ne pas savoir maîtriser l'art du dessin. Bon, ensuite, c'est Diderot, ce sont les hommes de lettres. La publication des salons de Diderot qui avait été d'abord circulé sous une forme confidentielle, hein, c'était la correspondance littéraire, une quinzaine d'exemplaires. Bon. La diffusion de ces salons au long du XIXe siècle va véritablement instituer un genre, le salon, qui va être pratiqué par Stendhal, par Gautier, par Baudelaire, par Huysmans, etc. Et donc là, ce sont des hommes de lettres, véritablement des écrivains, hein, qui... souvent d'ailleurs, en début de carrière, pour s'imposer, c'est le cas de Zola, pratique la critique d'art. Ensuite, il y a une professionnalisation de la critique d'art, hein, c'est-à-dire qu'elle devient l'affaire véritablement de spécialistes. Ça se passe dans les milieux symbolistes, hein, à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui, effectivement, avec les réseaux sociaux, alors il faut bien tenir compte du fait que il y a non seulement... un élargissement de la sphère des locuteurs qui s'accordent le droit de dire leur jugement, mais un élargissement considérable de ce qui est à juger, puisque l'art maintenant n'est plus dans les musées, plus seulement dans les musées et les galeries, il est partout, il investit l'espace public, certains parlent même d'art à l'état gazeux.
Très bien. Nous arrivons déjà à la fin de notre entretien et nous terminons toujours l'émission par une question traditionnelle. Qu'est-ce que la Sorbonne représente pour vous ?
Ah, il se trouve que j'ai lu tout récemment, relu plutôt, parce que ce sont des textes que je connaissais, mais ce passage-là m'avait échappé, un texte des frères Goncourt sur l'assaut qui a été donné en 1793 à la Sorbonne. Temple du savoir, c'est à cette occasion-là d'ailleurs que le tombeau de Richelieu a été profané et qu'après avoir brisé la statue funéraire, on a, selon les témoignages recueillis à l'époque, hein, des faits en 1793, on a extrait le cadavre de Richelieu et emporté sa tête. Voilà. Donc ce temple du savoir, vous voyez, a connu des événements absolument terribles. Hein, et je dirais que la Sorbonne est toujours là, per inde ac cadaver. Hein, elle n'est toujours pas morte. Ou pour reprendre la ville la devise de la ville de Paris, fluctuat nec mergitur.
Eh bien Bernard Vouillot, merci beaucoup.
Je vous en prie, je vous remercie.
RSU, il est plus de 20h ce soir. Place maintenant au reportage.
Si c'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
C'était vendredi dernier, une équipe de RSU s'est rendue à l'occupation du campus de Clignancourt pour rencontrer les occupants et entendre leurs revendications, Abel.
Oui Thomas, la semaine dernière donc, une assemblée générale a eu lieu au campus de Clignancourt. 450 élèves ont voté l'occupation du campus pour une durée indéterminée. L'occupation a duré 5 jours et a empêché tout cours de se dérouler dans la fac. Avec Louise, nous y sommes allés pour rencontrer la cinquantaine d'occupants et essayer de comprendre leurs actions et leurs revendications.
À 10h, nous arrivons devant les hautes grilles de l'établissement, fermées. Impossible d'entrer. On rencontre Dima, étudiante en musicologie qui vient tous les jours pour soutenir les occupants et occupantes. Elle répond à nos premières questions.
Donc nous sommes avec Dima. Dima, bonjour.
Bonjour.
Dima, tu participes à l'occupation du campus de Clignancourt.
C'est ça.
Et tu peux nous dire un peu comment ça se passe, depuis combien de temps il est occupé, combien vous êtes
Alors, on occupe depuis mi-lundi. On a voté en AG lundi l'occupation et dès l'après-midi, ça s'est mis en place. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on s'organise avec des comités. On a un comité de sécurité pour que tout le monde soit safe et se sente bien. On a un comité anti-VSS, donc violence sexiste et sexuelle, pour que tout le monde se sente safe, encore. On a un comité bouffe pour manger. Et on a un comité com pour que les gens soient un petit peu au courant de ce qu'on fait. Et il y a des roulements dans tous les comités pour que tout le monde puisse se reposer.
Ouais, bah, en fait, ça se passe super bien. On essaye de vivre tous en communauté. On est une petite cinquantaine. Ça dépend des moments de la journée parce qu'il y en a qui prennent la relève, etc. On a organisé pour avoir des gens qui font la sécurité la nuit, qui font des rondes. On a des règles de vie bien précises, donc pas de dégradation, on fume pas à l'intérieur, enfin les règles de vie normales du bahut de base. En plus, on fait des AG, on fait en sorte qu'il y ait toujours une personne dans les salles pour pouvoir les garder. Ça, c'est nos revendications, du coup, c'est de pouvoir avoir le bahut qui est ouvert à tous, qui est des cours ouverts, en fait, sur la mobilisation, qu'est-ce que c'est. Voilà, on veut faire venir des associations, en fait, parce que là, la fac, pour l'instant, ils nous ont juste interdit de se mobiliser, en quelque sorte. Ils n'ont pas accepté que 3 députés viennent, alors que même les 3 députés ont envoyé un mail à la présidence. Et depuis le début, là, la présidence, elle vient pas nous voir, elle nous parle pas.
Après notre départ, le campus est évacué par les forces de l'ordre vers 18h30. Tout au long de la journée, nous avons visité le campus investi, assisté aux réunions et aux ateliers que les occupants organisaient. Nous avons été témoins des négociations entre la délégation de la présidence et les occupants. L'intégralité du reportage qui couvre cette journée est à retrouver sur les plateformes d'RSU. Dans la première émission d'RSU, RSU en vadrouille.
RSU vous fait vivre l'actualité du campus de la Sorbonne au travers de ces reportages à retrouver donc en longueur sur nos plateformes, nos réseaux sociaux. Dans Cours d'honneur sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de la chronique débrouille, la pastille infoservice de RSU.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, à table!
Si vous ne l'avez pas bien compris aujourd'hui, vous écoutez notre dernière émission de la saison enregistrée en studio. Et quoi de mieux pour une dernière émission que de parler de nous ? En effet, tout au long de la saison, nous avons partagé des bons plans, nous avons interviewé des invités, nous avons discuté d'assauts, traité de sujets divers et variés, à croire que nous n'existons pas. Tibor, il est temps que tu présentes un peu notre radio.
Oui Thomas, et plus concrètement, je vais essayer de vous convaincre, étudiantes et étudiants, de l'intérêt qu'il y a à faire partie de cette radio. RSU, ou Radio Sorbonne Université, est une radio universitaire composée d'étudiantes et étudiants de la Sorbonne qui souhaitent faire, et qui font effectivement, de la radio. L'offre de RSU, qui recouvre la formation et la réalisation d'émissions, est riche. En tant qu'adhérente et adhérent, vous avez l'embarras du choix. D'abord, vous pouvez participer à des ateliers radio à hauteur d'une fois par semaine. Ceux-ci vous enseignent l'art radiophonique, le montage son, la réalisation de micro-trottoirs, la manipulation et la bonne utilisation d'un micro, et d'autres choses bien utiles. Aussi, vous pouvez participer à la réalisation de nombreux podcasts aux sujets multiples qui sont mis en ligne sur différentes plateformes. RSU vous permet même de laisser libre cours à votre imagination en vous proposant de créer votre propre podcast. Vous avez une envie particulière, une idée originale, une passion? Faites-en un podcast. En ce qui me concerne, et cela constitue encore une autre possibilité offerte par RSU, je participe mensuellement à l'émission Cours d'honneur. Enregistrée en studio pour une durée d'une heure, celle-ci se compose d'une dizaine de chroniques animées par différentes personnes. C'est un très bon exercice pour quiconque veut apprendre à s'exprimer dans des conditions radiophoniques similaires ou directes. Et puis, cette émission vous permet de toucher un peu à tout. Cela va de l'animation d'un débat à la réalisation de reportages, en passant par l'interview d'invités et l'animation d'autres chroniques. Cela, je l'ai dit, se fait en studio, oui, car nous avons un coquet studio radio au sein même de la Sorbonne, derrière une porte presque dérobée dont je ne vous dévoilerai pas l'emplacement. Raison de plus pour rejoindre RSU. Parfois, l'émission se fait hors les murs, en extérieur, sur les campus universitaires pour aller à la rencontre de celles et ceux qui étudient. Vous apprendrez ainsi à faire de la radio dans diverses conditions. Enfin, RSU, c'est avant tout une communauté de personnes qui partagent un même goût pour la radio. RSU, c'est donc aussi de l'extra-radiophonique, des événements, du temps passé au café et au bar, des soirées, peut-être même de nouvelles amitiés. Nous attendons avec impatience votre future inscription pour la prochaine saison de RSU.
Quel honneur rendu à Radio Sorbonne Université et à Cour d'honneur. Merci Tibor, merci à tous ceux qui ont participé à la saison cette année. On est au 9e épisode, c'était 9 épisodes assez riches. Et effectivement, on recrute chaque année, donc n'hésitez pas à nous rejoindre à la rentrée de septembre. On vous formera, on vous apprendra tout ça. La bonne bouille du groove relax de Benny Sings, le chanteur hollandais, a invité Rémi Wolf pour un nouveau morceau aux effluves Bossa, Pyjama. Et c'est sorti en mars dernier. We could take a walk on Cabana Beach. Read a book or two about the birds in Cali. We could see a movie about São Paulo. Have you seen the new documentary?
Candy bars and wine in the winter, man, I got you wrapped from my finger. Ooh, I just can't wait to get you home. Oh no, this can't wait till tomorrow. My heart's skipping beats like a bongo. Beach so thick, the full out.
Paris. Vous êtes bien avec nous, c'est l'heure d'accueillir notre deuxième invité avec Larissa.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Bonsoir à tous, ce soir nous recevons M. Stéphane Pesnel, maître de conférence en littérature allemande et autrichienne à la faculté de la Sorbonne, mais également traducteur littéraire. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors pour commencer, j'ai une première question pour vous. Les avancées technologiques ont-elles rendu plus accessible, selon vous, la littérature germanique ?
Les avancées technologiques rendent la littérature de langue allemande
beaucoup plus accessible par le fait qu'on a numérisé énormément de textes, y compris de textes anciens, et que quand on fait des recherches, même pour un article ou pour un cours, et qu'on a besoin de sources primaires, il n'est plus nécessaire de se rendre dans une bibliothèque, ce que je trouve parfois très dommage, parce que les bibliothèques sont des lieux de savoir qu'il faut absolument continuer de faire exister. Mais on a cette possibilité, par la numérisation, d'accéder à des sources de manière beaucoup plus évidente. Là, je suis invité prochainement à travailler pour un colloque sur un auteur autrichien du début du XXe siècle qui est très méconnu aujourd'hui. Et j'ai eu la grande surprise de trouver l'édition intégrale de ses poèmes numérisés, alors que rechercher ces textes m'aurait contraint à faire une commande d'ouvrages onéreux anciens. Et je trouve que les avancées technologiques, de ce point de vue-là, permettent une plus grande facilité de consultation des textes, des sources. Par ailleurs, elles nous permettent aussi, et ça n'est pas à négliger quand on travaille en littérature comme moi, de, par moment, quand on s'intéresse à un terme précis, une figure précise, des images, de faire des recherches par occurrence qui sont extrêmement rapides et qui nous donnent une très grande facilité de déplacement à l'intérieur des textes. Donc je dirais que oui, ces avancées technologiques sont précieuses. Elles ne remplacent pas les éditions critiques qui souvent sont beaucoup mieux vérifiées, qui contiennent aussi des notes extrêmement précieuses. Mais c'est une partie du travail qui est considérablement allégée par rapport à ce qu'ont fait les générations antérieures d'enseignants-chercheurs.
Récemment, en 2022, vous avez publié l'album Kafka, qui est un ouvrage qui permet de découvrir les grandes lignes de la vie de l'œuvre de Franz Kafka, donc de 1883 à 1924. Pouvez-vous m'en parler en quelques mots ?
Oui, donc c'est un ouvrage qui m'a été commandé par la bibliothèque de la Pléiade, qui n'est pas en fait à concevoir sans le fait que j'ai aussi été traducteur pour la nouvelle édition des œuvres complètes de Kafka dans la Pléiade. Et le travail de traduction m'a permis d'entrer véritablement en immersion dans la langue de cet auteur. Quand on traduit, on entre dans les moindres replis d'un texte. Et j'ai appris, par le travail de traduction, à connaître et à aimer cet auteur qui, pourtant je suis germaniste, mais qui m'était malgré tout assez étranger, qui m'effrayait par certains aspects. Je suis vraiment entré dans ce texte, dans cette pensée, dans ces images. Et pour accompagner la sortie des volumes 3 et 4 de la nouvelle édition de la Pléiade, il m'a été demandé d'écrire le texte de l'album, parce que c'est une tradition à la Pléiade, chaque année, de publier un album qui est offert lors de la fameuse quinzaine de la Pléiade, si on achète trois volumes. Ça, ce sont les circonstances extérieures. Mais ça m'a permis, finalement, de revisiter d'une autre manière cet auteur dans le texte duquel j'étais entré avec tant de passion. Cela demandait d'entrer dans la biographie, mais aussi dans la compréhension des œuvres. C'est un type d'ouvrage pour lequel il y a un cahier des charges extrêmement précis. C'est vraiment au nombre de signes près. On a ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire la nécessité de faire en permanence dialoguer le texte et l'image. Ouais. Et on conçoit le texte à chaque fois sous le rythme d'une double page. L'unité D'accord. de mesure, c'est un peu la double page, et ça, vous pouvez imaginer que ça donne des contraintes de rédaction. Par moment, c'est au mot près, il faut choisir un mot qu'on va enlever pour que ça tombe pile, que ça tombe juste. Il y a un aspect artisanal qui était intéressant. Et ce que j'ajouterais, c'est que pour ce dialogue du texte et de l'image, je suis passionné par le monde de l'édition. J'ai eu l'occasion de travailler avec une éditrice, avec une iconographe, une documentaliste, et que participer aussi à ce travail de préparation, même matériel d'un livre, moi, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime bien savoir comment c'est fait. Et là, c'était vraiment travailler dans des conditions absolument luxueuses, dans toutes les dimensions techniques qui m'intéressaient.
Ouais. Donc j'imagine que ce fut un travail très, très enrichissant sur différents points. Et pour vous, est-ce qu'il a nécessité un travail plus approfondi que, par exemple, pour votre œuvre Joseph Rhodes, L'exil à Paris, qui n'est pas tout à fait de la même forme?
Ce sont deux types de textes complètement différents, ouais. Puisque Joseph Roth, L'exil à Paris, c'était en fait un livre collectif, donc qui rassemblait des contributions originairement prononcées lors d'un colloque au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc là, j'étais davantage avec mon co-éditeur Philippe Forget, orchestrateur. Pour l'album, il s'agissait d'écrire l'intégralité du texte et surtout de faire énormément de lectures préparatoires avant de synthétiser. C'était un travail d'épure, d'aller autant pour l'autre livre dont vous parlez, j'avais une très grande liberté, même dans le nombre de signes, autant pour l'album. C'était un travail sur la réduction à l'essentiel. Et c'est très difficile quand on entre dans la richesse d'une œuvre comme celle de Kafka.
Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si vous avez suivi le mouvement du collectif Rich Kids of Literature.
Non,
pas du tout. Donc, je vous fais une brève petite présentation. Donc, c'est un collectif qui a commencé à parler de lui dans le monde littéraire, notamment par sa présence sur les réseaux sociaux et notamment par l'association d'œuvres littéraires et de milieux insolites. Et leur objectif était surtout de vouloir sauver la littérature contemporaine. Est-ce qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus.
Je ne connais pas suffisamment le projet pour me prononcer.
D'accord, pas de souci. Et pour terminer, nous avons un rituel dans notre émission qui consiste à poser une question. Donc, que pensez-vous? Que représente la Sorbonne pour vous?
La Sorbonne, pour moi, ça a d'abord été la maison d'en face, puisque j'ai fait mes classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand, et que souvent, on nous désignait la Sorbonne par ce nom, la maison d'en face, qui serait sûrement celle où nous continuerions d'étudier ensuite. J'ai eu la joie d'y faire mes études, toujours dans cette optique assez classique que m'avait ouverte les classes préparatoires. J'ai eu la chance d'y être recruté assez précocement. Et la Sorbonne, pour moi, ça représente cette université dans laquelle la tradition n'est pas un gros mot, une université dans laquelle les humanités restent importantes, une université dans laquelle il m'est possible d'enseigner la littérature classique de langue allemande et où tout n'est pas tourné vers le tout contemporain, où on peut prendre la leçon des auteurs du grand patrimoine allemand et autrichien. Et c'est un patrimoine extrêmement intéressant que je m'attache à faire découvrir aux étudiants. Et je dirais une dernière chose, c'est que c'est une université dans laquelle, pour moi, l'interculturalité, l'interdisciplinarité, le dialogue avec les autres disciplines a toujours été important. J'ai le plus grand plaisir à enseigner l'allemand et la littérature allemande à des étudiants qui ne sont pas germanistes au sens de la spécialité, mais qui viennent des lettres modernes, de la philosophie et de l'histoire. Et pour moi, ce sont des cours extrêmement enrichissants, et c'est ça que j'apprécie dans cette université, c'est la possibilité de partager cette littérature ou ces littératures qui sont si importantes pour moi avec des étudiants et étudiantes qui en sont avides, comme je peux le constater année après année.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Larissa. Allez, c'est l'heure de la revue de presse féministe sur Cours d'honneur.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord.
Allez, place à la revue de presse
des féministes.
We are pure, we are strong, we are brave, and we will fight.
Oh. Ce soir, dans la revue de presse féministe, je n'ai pas le bon script devant moi. J'ai le script de l'émission précédente. Donc, je vais essayer de le retrouver. Puis, je vais te lancer, Pauline. Vas-y, commence sans moi.
C'est une étude de l'IFOP parue le 27 avril dernier qui a dévoilé il y a quelques jours l'information suivante. Dans le monde du streaming, 4 femmes sur 10 ont déjà subi au moins une forme de sexisme, un chiffre qui atteint 66% chez les amatrices de jeux de combat et 58% chez les joueuses de MMORPG. On retrouve parmi ces formes de sexisme les agressions verbales, les menaces sexistes ou à caractère sexuel. Ce cyberharcèlement empêche les gameuses d'être aussi libres que leurs homologues masculins lorsqu'elles streament. Elles peuvent décider de jouer seules plutôt qu'en groupe, ou bien même de couper leur micro. Cette stratégie d'évitement, celle de refuser de participer à un chat vocal, de quitter un groupe et une partie, d'éviter de jouer à un jeu en ligne ou de cacher son genre aux gens avec lesquels elle joue, est malheureusement monnaie courante chez les joueuses interrogées par l'IFOP. 40% d'entre elles ont déclaré utiliser un de ces stratagèmes pour s'assurer de leur tranquillité. C'est notamment le cas de Magla, la première streameuse française avec plus de 745 000 abonnés sur Twitch. En octobre 2022, elle dénonçait déjà le cyberharcèlement qu'elle subissait à cause de son genre, ce qui lui faisait vivre un véritable enfer. Ces comportements alarmants que cette étude relève font pour la première fois l'objet d'une enquête. Cette étude, interrogeant 4000 joueurs et joueuses, permet de quantifier ce phénomène, puisqu'elle montre que les adeptes féminines et anonymes de jeux vidéo sont elles aussi la cible de comportements toxiques, qui s'expliquent notamment par les stéréotypes de genre auxquels un nombre non négligeable de joueurs adhèrent.
En parlant de stéréotypes genrés, Barbie semble se réinventer avec une nouvelle poupée plus inclusive, Pauline.
Et oui, l'image de la poupée Barbie évolue. Bien qu'elle ait renvoyé pendant de nombreuses années une image stéréotypée de la beauté féminine, corps ultra mince, poitrine généreuse, longues jambes, la marque Mattel se veut plus inclusive. Elle vient de dévoiler une nouvelle poupée Barbie porteuse de trisomie 21. En réalité, ce n'est pas la première fois que Mattel, la marque qui distribue la poupée Barbie, promeut une nouvelle image de la poupée. En 2016, la marque avait distribué des Barbie aux origines, tailles et formes différentes, et en 2019, des Barbie en fauteuil roulant ou à prothèse. Un nouveau pas vers l'inclusivité vient d'être franchi avec la poupée porteuse du syndrome de Down, qui a été créée en collaboration avec l'association américaine National Down Syndrome Society. Pour Éléonore Laloux, porteuse de trisomie 21, conseillère municipale déléguée à la transition inclusive et au bonheur à Arras, autrice, sacrée chevalier de l'Ordre national du mérite en 2021 et choisie comme ambassadrice de la nouvelle poupée, c'est formidable que cette poupée ait trouvé sa place dans la gamme, tout comme j'ai trouvé ma place dans la société. Je veux partager mon expérience et montrer au monde que l'on peut vivre heureux avec une trisomie 21.
J'ai hâte aussi de voir le dernier film Barbie qui a l'air un peu curieux. Au cinéma, comme la représentation est essentielle, Pauline, le 26 avril a eu lieu la Journée internationale de la visibilité lesbienne.
Et oui, le 26 avril dernier a eu lieu la Journée internationale de la visibilité lesbienne, un jour important pour lutter contre l'invisibilité de celle-ci, mais aussi pour lutter contre les discriminations qu'elle rencontre entre sexisme et homophobie, la lesbophobie. Créée en 1982 à Montréal, cette journée a pour but de mettre en avant les personnes lesbiennes généralement invisibilisées dans les médias, la politique et l'histoire, mais aussi de lutter contre les stéréotypes et clichés lesbophobes qui gangrènent l'imaginaire collectif dominant. Selon le dernier rapport sur les LGBT-phobies 2022 de SOS Homophobie, 12% des cas de LGBT-phobie rapportés à l'association sont spécifiquement lesbophobes. Ces violences prennent place principalement dans le cercle familial, pour 28% des cas, suivies par le cadre professionnel, le voisinage et le milieu scolaire. Les manifestations de la lesbophobie prennent différentes formes. Dans 64% des cas, il s'agit de rejets et dans 39% des cas d'insultes. La lesbophobie prend aussi les traits du harcèlement et des menaces. Cela conduit les lesbiennes à vivre dans un climat de peur et de vigilance permanente, rapporte l'association. Cela mène aussi à une véritable autocensure, notamment dans le monde du travail où, craignant une double discrimination, sexisme et lesbophobie, de nombreuses lesbiennes se sentent contraintes de s'effacer. Dans ce contexte, l'enjeu de la visibilité lesbienne est plus que jamais crucial, nous explique le journal Mademoiselle. Des chiffres qui nous rappellent toute l'importance de la visibilité des lesbiennes dans l'espace public, mais aussi de la lutte contre toutes les discriminations qu'elles subissent.
Merci Pauline. Allez, on a du courrier aujourd'hui.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Et c'est Cilia qui signe la carte postale cette semaine, Cilia qui a exploré les couloirs de la Sorbonne.
Alors là, on est au deuxième étage de la Sorbonne.
près de l'UFR de philosophie, des salles F040, 41, tout ce genre de choses. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire pipi. Là, on est assez pressé par contre. Donc, allez, pressons le pas. Le parquet grince, mais on presse pas.
Il faut vite retourner en cours après.
Et on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a quand même un cours de...
De grammaire.
Les portes battantes battent. La seconde porte battante bat également. Et là... Parfait. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a tiré la chasse?
On se lave les mains.
Absolument, on va se relaver les mains. On frotte, on frotte, on frotte. Alors, pour être plus précise, les paumes, le derrière des mains, l'interdoigt, le pouce, les poignets, sans oublier les ongles. Très important. Ensuite, on rince. Et ensuite, on a un immense privilège à la Sorbonne, c'est d'avoir du papier pour s'essuyer les mains.
Alors, est-ce que tu peux nous lire un petit peu ce qui est écrit sur ces portes de toilettes? Parce que, visiblement, on a des revendications, des petites anecdotes personnelles, des slogans, des stickers.
Sur les toilettes, il y a une feuille où c'est noté « accès provisoirement condamné ». Il y a aussi une petite inscription qui dit « c'est peut-être un passage secret ». On ne saura pas parce que les toilettes sont condamnées. Sur les autres toilettes, donc les deux portes des autres toilettes, on a une série d'inscriptions.
Vive le feu, vive les fous.
Vive les gouines, ACAB, CNews en feu, Zemmour au milieu.
Vive la commune.
Bande de tarés.
Nique les fachos. Bon, on a beaucoup de choses, mais le message principal qui est inscrit au milieu de la porte et qui peut, je pense, résumer globalement tous ces dessins de toutes les toilettes, c'est nique le système.
Et aussi un message, je vais dire ça, ma meilleure amie s'est suicidée en 2017. Pense aux gens que tu aimes, ils t'aiment aussi. On n'est jamais complètement seul. Tu as demandé de l'aide. Il n'y a jamais de honte à demander de l'aide.
Je pense qu'on a bien l'occasion de le lire parce qu'il est vraiment à hauteur d'œil quand on est assis sur les toilettes.
Absolument.
Et puis beaucoup d'amour quand même, parce qu'on a principalement des cœurs. En termes de motifs, c'est le cœur qui domine.
Du cœur, pour moi, ça c'est un cul.
Ah, c'est un cul ou un cœur?
Pour moi, c'est un cul.
Tu trouves? Parce que moi, j'y vois plus un signe d'amour que des fesses. Et en même temps, des fesses, c'est peut-être aussi de l'amour.
Sur l'inscription elle-même. Ouais. Moi, j'y vois un cul.
Tu vois un cul?
J'y vois un gros cul.
Mais un beau cul, cela dit.
Oui, absolument. Un
d'accord.
Beau cul.
Ok.
Bien en chair, ouais. Il y a également écrit ce qui compte, c'est la Bible, entre parenthèses, contre-pétrie, lol, sauras-tu répondre? Moi, je ne l'ai pas. Ce qui bonte, c'est la cible.
Ce qui bonte, c'est la cible?
Non, je ne sais pas. Mais les mots compte et Bible sont soulignés. Donc la contre-pétrie porte sur compte et Bible. Ce qui compte, c'est la Bible. Ce qui comble. C'est ça, ce qui comble, c'est la bite, c'est ça.
Ah, ce qui comble, c'est la bite.
Ce qui compte, c'est la Bible, ce qui comble, c'est la bite. J'ai pas stylo sur moi, t'as un stylo sur toi?
Je crois, attends.
Tu peux noter oui. O-U-I.
Souligné.
Évidemment,
de la triche quand même, parce qu'on
est
dans les toilettes.
La triche, oui.
Donc, les téléphones portables.
J'ai beaucoup triché, donc
les
toutes les toilettes de la fac, oui, absolument.
Ouais. C'était quoi ton moyen de triche le plus élaboré?
Moi, je vis avec mon temps, donc moi, c'est le téléphone. Hein.
Ah ouais,
ouais, oui,
un petit PDF, une photo,
on va pas, tu
une
pas,
petite
peux
note.
Pas me dire que t'as pas non plus d'expérience dans ce domaine-là.
Ah, moi, si, bien sûr. Mais
oui,
moi, je suis plus...
Moi, mais...
Non, moi, j'ai très peu triché, mais quand j'ai triché, j'étais plus au papier. Une fichette.
Moi, je vis avec mon temps.
Je pense qu'on peut quitter ces toilettes après cette exploration passionnante et surtout retourner en cours, Nina, parce qu'il faut étudier. Allez, c'est parti.
Allez, et on est très en retard.
Oui.
Alors, on devrait courir.
Allez, cours, cours, cours.
Merci, Cilia. Vous, autour du plateau, vous avez des toilettes que vous préférez à la Sorbonne? Un petit repère comme ça, un petit conseil dérobé à ceux qui cherchent à être tranquilles?
Franchement, celle-là, c'est vraiment les meilleures toilettes.
Rosalia, ouais.
Ouais, parce que tu peux passer 10 minutes, même si tu n'as pas besoin de rester aussi longtemps dans les toilettes, à lire tous les messages qui sont inscrits sur la porte.
C'est vrai que c'est rigolo. Nous, à l'époque, on connaissait des toilettes qui étaient dérobées. Alors, il faudrait que je retrouve le couloir exactement. Moi, je sais que c'était au 4e étage, où il n'y avait jamais personne qui s'y rendait. Et on y allait pour fricoter avec les copines quand on voulait être discret à la Sorbonne. Je vous retrouverai le plan exact. Allez, vous êtes bien dans Cours d'honneur, la dernière émission de l'année et la dernière critique culturelle de la saison.
Hey, this is not a test. This is rock and roll.
Super Mario Bros, le film. Qui n'a jamais entendu parler de Mario autour de cette table, hein, si certains ou certaines pensent à cet oncle moustachu dont vous ne vous rappelez même plus le visage. Vous n'êtes pas loin, mais tout de même, on va rattraper ça avec la sortie en salle de l'adaptation du jeu vidéo Mario Bros. Et on va le faire bien, Juliette.
Cette chronique, je la dédie à tous les grands-parents paumés face à la requête d'un jeu vidéo Mario par leurs petits-enfants chaque Noël. Car si mamie a compris ce qu'était la Nintendo et papy la plaquette pour désigner la Switch, tout se compliquait lorsque d'autres termes de ce domaine venaient à apparaître dans le vocabulaire de leurs petits-enfants. J'ai par ailleurs le souvenir d'avoir dû expliquer à mon grand-père que « Non, papy, je ne parle pas de voiture ni même de quelque chose relié à Fantomas lorsque je te dis que j'ai une DS pour mon anniversaire. » Passons, car tout ce calvaire est terminé. Du moins, principalement pour Mario, puisque vous avez aujourd'hui, près de chez vous, un film réglant tous vos soucis, ou presque, Super Mario Bros, le film. Pour remettre 2-3 enfants ayant vécu sans jeu vidéo dans le contexte, Mario, c'est ce petit bonhomme moustachu présent sur presque toutes les consoles de la firme Nintendo. Inventé par les japonais Shigeru Miyamoto et Gunpei Yokoi, Mario et Luigi étaient au départ seuls face à Donkey Kong dans les égouts de New York. Ce n'est qu'après l'explosion de popularité des jeux de plateforme que Mario et son frère reviennent avec un jeu vidéo dont ils sont l'effigie. S'en suivit alors une popularité dans le reste du monde, faisant de Mario l'icône majeure de Nintendo parmi toutes celles déjà présentes. Et qui dit gros succès des... Évidemment, grosse adaptation.
Oh non !
Que pouvons-nous dire des adaptations Mario Bros ? Eh bien, à part ce film de 1993, brillant seulement par sa kitscherie, rien de trop fameux n'a été produit d'ici là. Quelle que soit la licence de jeux vidéo adaptée, la réalisation se veut fidèle aux œuvres originales. Cependant, cela donne la plupart du temps des films feignant la subtilité et créant des monstres de gènes aspirant votre enfance et en passant de trois rêves poussiéreux qui traînaient par là. Mais 2023, signant l'année du renouveau, du moins pour ses adaptations, je croise les doigts, Nintendo nous offre un film d'animation Mario presque émouvant tellement celui-ci est loin des clichés habituels. Sorti en salle française le 6 avril dernier, cette adaptation en film d'animation se veut humoristique. Ici, pas d'histoire calquée sur le jeu vidéo, pas de transition entre les scènes volées à Star Wars. Ici, pas d'histoire, et non, le film se veut original et bourré de références subtiles tout en reprenant les bons éléments qui constituaient le jeu. Le cadre change et prend place dans un Brooklyn contemporain où Mario et Luigi font l'exercice de leur métier, plombier. Plus de princesses à sauver, c'est le frère de Luigi qu'il faut exfiltrer de chez Bowser. Peach prend une place de protagoniste, en partant sauver le royaume champignon et Mario cherche à prouver à son père qu'il est capable de réussir. Enfin bref, le film permet de caractériser des personnages encore alors sans histoire auxquels il est maintenant possible de s'attacher ou non. Certes, Super Mario Bros. Le film ne se place pas dans la catégorie d'une œuvre dont notre mémoire se souviendra pérennement. Cela reste une adaptation principalement pour enfants, ne serait-ce que par cette fin rappelant les mauvaises séries américaines des années 90. Mais il a néanmoins cet atout de pouvoir être regardé sans connaître grand-chose du jeu vidéo, tout en appréciant son histoire et son animation très réussie. Ainsi, plus besoin de Wikipédia pour Papy et Mamie.
Merci Papy et Mamie, merci Juliette, vous êtes toujours dans Cours d'honneur, c'est ainsi que se termine la saison 2022-2023 de Cours d'honneur. Merci à tous, bravo à tous autour du plateau, tous ceux qui ont participé à cette émission, Rosalia, Abel, Tibor, Pauline, Juliette, Cilia, toute l'équipe qui n'est pas là, on pense à Sixtine, on pense à Emma également, merci à vous tous, merci au service culturel pour son soutien indéfectible, on s'est régalé pendant une saison, on va se régaler une dernière fois ensemble pour une émission spéciale le 31 mai, on sera en direct et en public à Jussieu, le campus Pierre et Marie Curie, faculté de sciences, entre midi et 14h. Venez nombreux participer à l'émission, puisque vous le savez, ce sera interactif. Voilà. Vous voulez dire un dernier mot autour de la table ?
Merci Thomas.
Merci Thomas.
Oui, merci Thomas.
Merci les gars. N'oubliez pas, d'ici là, restez curieux, soyez fous, tout est possible. Ciao !
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter. T'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.